Bonjour et bienvenue dans l'épisode 20.
Ouais, déjà.
Oui, donc c'est un grand moment, l'épisode 20 du podcast livreaudio.net avec Florian Dédisson
et Cyril Godefroy.
Voilà, donc on a repris un petit peu notre habitude d'écouter des livres audio et d'en faire la chronique.
Oui.
Et donc, aujourd'hui, on va commencer par toi, Florian, parce que moi, j'ai rien préparé, comme
d'accord.
D'habitude.
Comme d'habitude, tu vas faire ça en improvisation.
À la rage.
Alors
total.
Moi, je vais vous parler du très célèbre, désormais, La fille du train de Paula Hawkins.
Que t'as écouté, tu t'es pas pendu.
Ah, bah, je vais t'en parler un petit peu. Donc, c'est un livre audio lu par Valérie Marchand, Joséphine de Rennes et Julie Bazex. Alors déjà, ça te dit quoi déjà?
Déjà, ça me dit qu'il y a trois narratrices. C'est donc un multicast et on retrouve les personnages principaux du roman.
Oui. Alors, c'est pas vraiment un multicast puisque, enfin, comme au sens où on l'entend, c'est-à-dire que ça parle pas en même temps. C'est chaque
fois des narratrices.
Voilà, chaque fois. Donc c'est trois narratrices pour trois points de vue. Ça, j'ai trouvé ça assez excellent d'avoir. L'éditeur a eu cette idée. Ça aurait pu être la même femme qui fait les voix des trois. C'est trois femmes, hein, donc ça aurait pu être la même narratrice, hein, ça aurait été possible. Mais là, on a choisi trois personnes différentes et j'ai trouvé ça assez malin. Alors le problème, c'est que quand tu laisses un peu le livre et que tu le reprends, tu sais plus parce que les voix sont pas super différentes, ces trois voix de femmes. Bon, voilà. Ça, c'est le petit bémol, mais bon, si on est assidu dans l'écoute, ça doit bien se passer. Alors, du côté de l'histoire, oui.
D'abord, on parle pas de l'histoire. D'abord, on commence par les points de vue techniques. Alors, c'est réalisé par qui, etc.
Justement.
Tu sais plus rien.
J'ai pas noté. Non, parce que j'avais parlé de la narration, c'est pour ça.
Ah, bon, on commence par la narration, alors.
Non, mais c'est ça, je dis, c'est ce que j'ai dit. Il y a trois narratrices, trois points de vue. Après, niveau technique, c'est évidemment toujours au rendez-vous, c'est pro.
Ah oui, c'est fait par Audiolib.
C'est Audiolib, exactement.
Donc c'est Audiolib, donc a priori, il travaille avec seulement des bons comédiens, mais
exactement.
En plus, au niveau technique, c'est bon.
Au niveau technique, c'est tout à fait agréable à l'écoute.
Est-ce que ça fait partie de ces livres audio où il y a de la musique à peu près à tous les chapitres?
Non, pas du tout.
Ah, Dieu merci.
Non. Du coup, on passe à l'histoire. Parce qu'avec trois points de vue différents, vous doutez qu'il y a quelque chose du côté de l'histoire. Alors déjà, le pitch, moi j'ai été attiré personnellement parce que j'adore les trains. Hein. J'ai une histoire d'amour avec les trains. Dès qu'il y a le mot train dans un titre de livre, j'ai envie de le lire ou de l'écouter.
Je suis très inquiet.
Non. La fille du train, voilà, c'est intriguant, je trouve déjà, voilà. Titre intriguant et attrayant. Ça me fait penser un peu au train de 16h50 d'Agatha Christie. Et d'ailleurs, c'est un petit peu le même pitch de départ parce que c'est l'histoire de Rachel qui prend le train deux fois par jour pour aller travailler à Londres. Et c'est une commuter, comme on dit en anglais.
Mm-hmm.
Et à chaque arrêt, il y a un arrêt du train, elle observe, il y a une jolie maison avec un couple qui y vit, et en fait elle se fait un petit peu des...
Elle se fait un film.
Elle se fait des films, voilà. Donc ce couple, évidemment son couple à elle est périclité depuis un bon moment, donc elle voit l'image d'un couple parfait. C'est toujours à ce même arrêt, elle leur a donné même des prénoms.
Des petits noms.
Et c'est Jason, je crois, et Jess. Et du coup, tous les jours, elle observe ça. Ça fait partie de son quotidien. Et, incident déclencheur, un jour...
Jess disparaît.
Eh bien, un jour, elle voit déjà, premièrement, un autre homme que celui de d'habitude, qui est très près, c'est sur le balcon, je crois qu'elle les voit, qui est très près de Jess. Donc déjà, ça l'intrigue. Et surtout que quand elle se lève le matin, la Jess... en fait, qui s'appelle vraiment Megan Hipwell, ça c'est son vrai nom, puisque qui est révélé par la une des journaux, puisque cette femme a disparu.
D'accord.
Voilà. Alors moi, je trouve que le pitch, il est assez, assez génial. Et ça donne vraiment très envie. Alors, après, on arrive dans une espèce de... un peu de lenteur d'écriture, et là c'est, on s'enfonce quoi, je veux dire, c'est 11 heures quand même. Hein.
C'est là que je me suis enfoncé, je me suis tellement enfoncé.
Toi aussi,
que
tu l'as écouté?
Non, j'ai pas écouté, mais j'ai essayé de le lire.
Et moi je suis allé jusqu'au bout, mais là c'est compliqué, hein. Au bout d'un moment.
Ouais, c'est tout mou.
Ça part bien, et voilà, comme je disais, on se perd un petit peu dans les trois voix, des fois je savais plus, vu que j'avais du mal à l'écouter, je devais pas l'écouter tous les jours, je pense, voilà, avec des espaces parfois un peu plus longs. J'ai trouvé les personnages détestables, en fait. Pas du tout... J'ai aucune empathie pour les personnages. Ils ont des réactions qui sont, je trouve, complètement incohérentes, ahurissantes, un petit peu. Leurs actions sont hyper bizarres. Et puis, il y a vraiment trop d'invraisemblances, quoi. Et la fin, c'est la somme de toutes ces invraisemblances. Et... On arrive un peu à la fin, à bout de souffle. Ouais, comme je disais, 11 heures.
Ouais. Alors, je ne comprends pas. Moi, je n'ai pas compris du tout quand j'ai essayé de lire ce bouquin, parce que c'était le carton intersidéral de l'année.
Je voulais l'écouter pour ça, parce que c'était le carton intersidéral. Ils en ont fait un film.
Il y a eu un film aussi avec...
Le film, Emma Watson. La même. C'est toujours, je confonds toujours. Bon, tu vas trouver avec ton ordinateur.
Je chercherai un jour, mais voilà. Je trouverai et puis je le dirai.
Et c'est celle qui tourne avec Villeneuve, non? Souvent, non, pas du tout. Je confonds tout. Bon, bref. Et le film, pareil. Hein, bon, à l'image du livre, quoi. Voilà. C'est très lancinant. Enfin, en tout cas, ça a bien retranscrit ce que j'avais écouté. J'ai trouvé dans le film. C'est voilà. C'est lent, lancinant. Voilà. Bon. Alors, je voudrais pas vous rebuter à l'écouter non plus, hein, parce qu'il y a quand même une bonne ambiance. C'est un peu déprimant, hein, faut le dire. Mais il y a une bonne ambiance, et puis je trouve qu'il y a ce côté dans le pitch, comme je l'ai, souvent quand on écoute des livres audio, c'est dans les transports, dans le train notamment, et c'est assez drôle de se retrouver dans un moyen de transport sur des rails et d'écouter la file dans le train, et puis ça démarre comme ça. Enfin, voilà, c'est assez. Donc il y a une ambiance un peu qui démarre comme ça. Mais après, bon, c'est laborieux, quoi. C'est laborieux.
Donc, ne me dis pas que tu n'es pas en train de me dire qu'en fait, j'aurais dû continuer à le lire et que ça allait devenir super à la fin.
Non, malheureusement, après, c'est subjectif. Hein. Ce n'est que mon avis, puisqu'il a été encensé par le monde entier, par, je sais plus, 20 millions de lecteurs.
Milliers de lecteurs, des centaines de milliers de lecteurs.
Voilà, La fille du train, bon, je n'étais pas plus emballé que ça, quoi. Mais chapeau à la réalisation, voilà, j'ai trouvé intelligent d'avoir. Trois voix de femmes et tout, ça change aussi. Voilà.
Oui, c'est bien. Oui, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup parlé jusqu'à présent de livres audio où il y avait un seul narrateur.
Oui, voilà.
Et là, c'est un livre audio où il y a plusieurs narrateurs.
Voilà, ils ont repris la structure du livre.
Ouais.
Voilà, ça, j'ai trouvé ça malin et intéressant.
Bon.
Et toi, t'as écouté quoi, du coup?
Alors, attends. Ah. On va écouter un passage quand même de La fille dans le train qui... La fille du train qui... dans le train, mais la fille du train qui...
si, elle y est, hein, dans le train.
qui, à l'écran, a été interprétée par Emily Blunt.
Emily Blunt, bien voilà, sûr, c'est commencé presque.
Son prénom, son nom, toujours son nom, mais je vois très bien de qui
c'est. Écoutons un extrait, alors.
Je ne peux pas m'en empêcher. Dès que j'aperçois des haillons abandonnés, un t-shirt sale ou une chaussure isolée, je pense à l'autre chaussure et aux pieds qu'elles enveloppaient. Un crissement strident, puis le train s'ébranle et repart. La petite pile de vêtements disparaît de ma vue et nous roulons pesamment vers Londres, à la vitesse d'un jogger bien entraîné. Quelqu'un dans le siège derrière le mien, irrité, pousse un soupir impuissant. La lenteur du 8h04 qui va d'Ashbury à la gare de Houston est capable de faire perdre patience au banlieusard le plus désabusé. En théorie, le voyage dure 54 minutes. En pratique, c'est une autre histoire. Cette portion de la voie de chemin de fer est une antiquité décrépie, en perpétuel chantier, émaillée de feux de signalisation défectueux.
Et toi, tu as écouté quoi du coup, Cyril ?
Eh bien, moi, cette semaine, je voulais pas parler d'un livre que j'ai écouté récemment, mais plutôt d'un livre que j'ai écouté il y a longtemps, et je vais prendre aussi un best-seller intersidéral.
Ouh, c'est quoi alors ?
Harry Potter.
Ah bah oui.
Voilà, et je voulais essayer de faire un de ces exercices que je fais de temps en temps, à savoir parler d'un livre en français et d'un livre en anglais.
Ah.
Parce que j'ai à la fois écouté des Harry Potter en français, à la fois lu par Bernard Giraudot et lu par, j'ai oublié son nom, mais ça va me revenir tout de suite, Dominique Collignon. Voilà, j'ai aussi lu en version française Harry Potter et les Reliques de la Mort, lu par Dominique Collignon-Morin.
Oui.
Le bruit de la porte d'entrée qui claquait résonna dans l'escalier et une voix cria
« Oui, toi !»
Après avoir passé 16 ans à s'entendre appeler ainsi, Harry ne pouvait ignorer à qui son oncle s'adressait. Il ne répondit pas tout de suite, cependant. Il fixait toujours le fragment de miroir dans lequel, pendant une fraction de seconde, il avait cru voir l'œil de Dumbledore.
Et lut une version anglaise, elle lue par Stephen Fry.
Ah oui.
Voilà, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, le troisième.
Harry was several streets away before he collapsed onto a low wall in Magnolia Crescent, panting from the effort of dragging his trunk. He sat quite still, anger still surging through him, listening to the frantic thumping of his heart. But after 10 minutes alone in the dark street, a new emotion overtook him. Panic. Whichever way he looked at it, he had never been in a worse fix.
D'accord, c'est marrant.
Voilà, donc...
T'avais un peu un...
J'avais une différence entre la version française et la version anglaise, parce qu'il y a aussi une version américaine, d'ailleurs.
Ah bon ?
Une version américaine avec un narrateur différent, ah ouais. C'est excellent.
Oh là là, la licence, là, oh là.
Oui, oui, oui. Non, mais après, c'est très adapté aussi en termes d'accent, en termes de manière de tout ça, au marché auquel ça s'adresse.
Oui, alors, si je peux me permettre, petit aparté, si j'étais américain, c'est plutôt l'accent anglais que je verrais, puisque, voilà, c'est très anglais dans le... Dans le, enfin.
Oui, mais par exemple, les Américains, quand tu leur dis find things in the boot, pourquoi ils cherchent des choses dans ma botte? Alors qu'en anglais, the boot, c'est aussi le coffre.
Mais est-ce que tu crois que ça a été traduit?
Oui, c'était des versions qui étaient traduites aussi.
D'accord.
En termes
c'est
de,
pas les mêmes, tu
en
crois?
En termes de vocable, oui.
Oh, voilà, du boulot là.
Ouais. Mais après, c'est des licences très territorialisées aussi pour chacun de ces titres-là. Voilà, donc bon. Alors, en français, le travail de traduction qui a été fait par les traducteurs sur Harry Potter était génial. Le travail qui a été fait techniquement, il était très honnête. La narration, justement, c'est le truc qui...
Il pêche
aussi bien du côté de Bernard Giraudot et derrière du côté de Dominique Collignon-Morin. J'ai encore oublié son nom.
Il en a deux, alors c'est pour ça.
voilà, c'est ça parce que justement, ils ont trop tourné ça en français.
Ah oui, c'est ce dont on avait parlé un petit peu.
On en a déjà parlé une autre fois, mais bon, là, j'avais vraiment envie d'en parler.
Plusieurs personnes qui disaient que c'était gênant.
Voilà, il y a plein de personnes qui disent que c'est gênant. Moi, je me souviens l'avoir écouté, donc, en voiture, Harry Potter et les Reliques de la Mort, Harry Potter 7, avec mes enfants dans la voiture, les trois garçons, là, de 13, 19 et 21 ans. Et... toutes les trois phrases, ils disaient « Non, mais c'est pas possible de dire ça comme ça. »
D'accord.
Parce que Weasley...
Oui.
Toutes les prononciations des noms sont pas bonnes. Oui. Les voix sont énormément jouées.
Ah, trop peut-être.
Trop peut-être. Ouais, en fait, d'accord. À l'origine, faut voir
trop
que...
Trop théâtralisé un peu. Hein.
Il faut voir que la première interprétation par Bernard Giraudot a été faite dans les années 2000 et que... il a évidemment commencé par Harry Potter à l'école des sorciers, qui était vraiment orienté par Gallimard comme de la lecture jeunesse.
Ah, d'accord. Ouais.
Donc, c'est parti complètement dans de la littérature
jeunesse.
C'est intéressant,
jeunesse, du
alors que
voir l'évolution.
Fait, in fine, voilà, comme ça dure 7 tomes et c'est toute la vie d'adolescent d'Harry Potter qui est retracée de jeune adolescent à jeune adulte. On est quand même beaucoup plus à la fin, on est dans du young adult, donc on n'est plus du tout dans la même approche qu'au début. Donc voilà, la narration a beaucoup péché dès le début et Dominique Cognignon-Morin, je ne sais pas s'il avait des préconisations de la réalisation,
c'est possible, hein.
Ou lui-même qu'il avait décidé de faire comme ça, mais il a été obligé de suivre complètement, de rester dans la voie qui avait été tracée par Bernard Giraudeau.
Il n'a pas refait le tome 1.
Ils n'ont pas refait aucun tome.
D'accord, ok.
Parce que, je ne sais plus exactement, mais je crois que Bernard Giraudeau, il avait fait 4 tomes.
Ah ouais.
Avant de succomber de son cancer.
Oui.
Et donc.
Ils n'ont pas été refaits, d'accord.
Voilà,
ils ont continué juste.
Ils ont juste continué. Bon, ouais. Après, c'est des bons bouquins. Hein. Harry Potter et les reliques de la mort, c'est.
Oui.
25 heures.
Oh là là, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est des pavés, hein, de toute
c'est,
façon.
Voilà, c'est un peu un pavé. Je me souviens plus lequel est le plus. Je sais plus si c'est celui-ci qui est le plus long ou si c'est Harry Potter et la coupe de feu qui est le plus long.
Je
ne
sais pas du tout.
Non, Harry Potter et la coupe de feu, il fait que 21h. T'en as lu aucun ?
Ouais.
Sors de cette pièce !
Ouais, je sais bien, mais c'est comme ça.
Ouais, là, ça commence par. Ça commence gentiment. Hein. On commence par des livres qui font 8h.
Oui,
9h,
ça, c'est de base.
Comme...
Oui.
Voilà, L'école des sorciers, ça fait 8h et 21
minutes.
Oui, c'est
un bouquin.
Bon, 1050 notes.
Wow.
Sur Audible.
Ouais.
Ouais.
Oui, bon, c'est Harry Potter, hein, c'est pas...
1050 commentaires, voilà. Donc après, l'histoire, moi je trouve que c'est vraiment le parfait exemple du roman qui réussit à tenir en plus sur une série de 7 et qui a vraiment des transformations qui sont...
Oui, là, pour le coup...
Je veux dire, c'est exemplaire.
Ouais.
C'est complètement
oui, exemplaire. Ça coche toutes les cases, quoi.
Voilà, on peut aimer, on ne peut pas aimer le personnage d'Harry Potter. On peut trouver qu'il est un peu gnangnan. On peut trouver qu'il y a plein de choses qui vont pas, etc., etc. Mais cette relecture de la mythologie, de certaines mythologies dans un monde de sorciers et l'invention du monde des sorciers qu'il y a autour est absolument colossale.
Ouais, c'est la mythologie qui est vraiment exceptionnelle.
Et c'est pas étonnant que... C'est pas du tout étonnant, je trouve, que ces romans et cette série de 7 tomes aient connu le succès interplanétaire qu'elle ait connu.
Non, puis c'est une aventure de fou, quoi.
Oui, c'est une aventure de fou.
C'est génial quand t'es... Enfin, t'as vraiment envie...
Quand t'es un enfant et que tu veux écouter, oui. Bah, oui. Moi, j'ai ma nièce de 6 ans, elle a découvert Harry Potter, elle dessine du Harry Potter 24/24.
Ouais, c'est normal. Ouais. Moi, j'aurais aimé avoir ça quand j'étais petit. Hein.
Ouais.
Il y avait Tolkien. C'est un peu plus compliqué.
C'était un peu plus compliqué, Tolkien, quand même. Bon, mais en même temps, en termes de structure héroïque,
de
personnages, mythologie et tout, c'était quand même aussi grave.
Ouais, ça se pose là aussi, ouais.
Voilà, donc... Harry Potter à l'école des sorciers, si vous êtes angliciste et que vous parlez un petit peu l'anglais, ça reste quand même d'un niveau qui n'est pas incompréhensible. Si vous êtes dans de l'anglais courant, c'est très bien aussi. Donc, la version de Stephen Fry, n'hésitez pas à l'écouter, parce qu'en plus, Stephen Fry, c'est juste meilleure version qui puisse exister. Elle est lue parfaitement. Si vous êtes vraiment sûr du français, vous pouvez vous attendre à quelques crissements de d'ongles sur le verre pour certaines choses, mais sinon ça reste de très très bonne tenue, hein, dans l'ensemble. Voilà.
Très bien.
Bon, et puis ça vous fait, si vous prenez les 7 tomes avec un abonnement sur 7 mois, ça vous fait 100 heures, comme ça, de livres audio, donc c'est quand même, si on apprécie les livres audio, c'est quand même un grand bonheur, quoi.
C'est vrai. C'est très bien, tout ça. On donne rendez-vous à tout le monde la semaine prochaine, alors ? Non ? Tu veux pas ?
Non, je serai en Angleterre, justement, donc... on peut peut-être enregistrer un autre podcast, si, quand même.
On verra. À la prochaine, on va dire. Alors.
À la prochaine. Et on espère que d'ici là, Florian aura enfin fini de ranger ses cartons et aura retrouvé sa voix.
Ouais, mais ma voix, je l'ai. C'est mon nez que j'ai pas.
Voilà. Bon, et puis on vous retrouve pour parler de choses complètement différentes.
À bientôt.
À bientôt.